Et c'est cette proximité même qui a eu pour conséquence qu'ils ont voulu détruire la Torah d'Israël. Donc toujours, plus il y a proximité, comme dira Baskin a dit hier, il n'y a de guerre que fratricide. Plus on est proche, plus il y a en même temps lorsqu'il y a différence fondamentale. Donc c'est cela qui les amène à vouloir détruire d'Israël la Torah. Qui Ein Gibor, Miskane Eilo ve Gibor Sheke Moso. Car un fort, et là il n'y a pas il y a Gibor, n'est-ce pas, un puissant, eh bien ne jalouse, c'est plus que jalouse, Miskane, enfin, ne jalouse,
n'entre en rivalité.
Que quelqu'un d'autre qui est fort et qui est comme lui, qui est à son niveau, et quelqu'un qui se trouve dans une situation analogue à la sienne. Ou le fichor rotsul aved mehem hatoiro. Et c'est pourquoi les Grecs voulaient annuler d'Israël la Torah. Le lochar omar, et c'est pourquoi on nous montre donc dans ces textes, qui malchus shelichis misyaches el chayo shehi nomer. C'est pourquoi ce royaume se rapporte, se rattache à l'animal qui est le léopard, Sheyesh lo arbok nofaim, qui a quatre ailes. Dans la vision de Daniel, il s'agit d'un léopard qui a quatre ailes. Qui a chochma ki mispachet bechol tzedodin, le rochab ou le horer. Car la sagesse se répand dans toutes les directions en long et en large. Ve'ein lo gvul klal. Et elle n'a pas de frontière, la sagesse. Rak mispachet bechol mokom, elle se répand partout. Elle est universelle, universaliste. Velocha hoyo medameze le nomer, chez Yeshlo arba knafaim. C'est pourquoi il le compare à un léopard qui a quatre ailes, chez haknafaim morim al hispashtut bechol abaruchot. Car le fait d'avoir quatre, car les ailes, eh bien, enseignent. Le fait de se répandre dans les quatre directions. Ukvar, biarnouzé, nous avons déjà expliqué ça, le mot comme affaire ailleurs, je sais me voir, et ceci est clair, partout. Velocha, Omar, al-Umozo, c'est pour ça Daniel dit, lorsqu'il parle de ce peuple, c'est toujours dans Daniel, toujours en araméen, dans le chapitre 2, 39, dit, Sishlat, bechol aro, tu régneras, qu'elle régnera sur toute la terre. Que Java, que la Grèce sera, aura donc là, domination, la culture grecque dominera le monde entier.
Tu peux dire Tishlot.
Non, c'est marqué Tishlat. J'ai vérifié les textes. C'est dit Tishlat avec un patar. C'est de l'araméen. Dit Tishlat, befol avant. Mais Achar, qui a Huma Azos, Yeshua Chokma, toujours du fait que ce peuple possède la sagesse, de Hare HaSechel, Mispachet befol Aolam, car l'intellect se répand dans le monde entier. Dichar, il n'y a la sechel, car c'est le propre de l'intellect. Velochar, que fimida sa sechel, donc en fonction de cette qualité d'intellect, hoyo mamshal tom bechol olam. C'est donc du point de vue intellectuel que leur domination s'est étendue sur le monde entier. Hakol hoyo que fiamido, et tout cela en fonction de cette qualité, conformément à cette qualité intellectuelle. La domination grecque se fait par l'intellect. Le Maharal y insiste. Locha, Hamalchus Azos, et c'est pourquoi ce peuple, Lohoyo Misnagdim le Israël, ne s'opposait Israël, Rak Mitzad HaToro HaSichlis ou Mitzad HaTorah Elokit. Ne s'opposait Israël que en ce qui concerne la Torah intellectuelle et la Torah divine. Donc uniquement leur point de nous y reviendrons demain bien sûr, leur unique point donc de lutte, de désaccord, c'est Torah intellectuelle, donc intellectuelle parce que les Grecs ont l'intellect, mais Torah parce qu'ils n'ont pas, et Torah divine parce que là ils n'ont ni l'un ni l'autre. Vechar hoyo kol inyan malchus, conséquence de cela, vechar hoyo kol inyan malchus lichis, le vatel me Israël, mala sa Torah elokis, vechol dovar eloki bifrat. Et c'est pourquoi tout le but de ce troisième empire était de détruire d'Israël la vertu de la Torah divine, ma lasta Torah Eloki, le hol davar Eloki bifrat, c'est important aussi, et toute chose divine en particulier. Hoyo rotse umazos, chez l'Ohi yechas de shulom Israël, ma la Eloki. Il désirait, ce peuple, les Grecs, qu'il n'y ait pas Dieu préserve à Israël, Israël n'ait plus cette qualité divine. Vezé Omrom, et c'est ce qu'on dit dans le Midrash donc de Vaïkaraba 13, 5. Alors il s'agit donc d'un verset de la Genèse qui décrit, après la création, qu'il y a un fleuve qui sort de l'Éden pour arroser le Gan, le jardin, et il se divise en quatre branches. Et ces quatre branches, le Midrash les explique de nouveau comme étant chacune se rapportant à l'un des empires. Le Maharal ne cite que le troisième, celui qui nous intéresse, qui est celui de la Grèce. Nous lisons donc là, « Veshem hanor hashlishis Hidekel ». Et le nom du troisième fleuve, c'est Hidekel. Ça, c'est la citation de Bereshis. La Torah dit, parce qu'elle cite les quatre fleuves, avec chacune leurs caractéristiques, le nom du troisième fleuve, c'est Hidekel.
Et quel est le nom en géographie actuelle? C'est le Euphrate ou le Gange?
Non.
Je ne sais plus. Mais le Hidekel, c'est quoi?
Le tigre,
par hasard, léopard.
Alors le Midrash dit le nom du troisième fleuve, c'est Hidekel, Zo Yovon, il s'agit de la Grèce, Shehi Chado Vekalo, Dig Zero Seo, à l'Israël. Car elle était, on peut lire évidemment Hidekel, on peut le décomposer, toujours facile de décomposer. Hidekel, eh bien, il est composé de deux mots qui sont les mots had et les mots kal. Alors, had, ça veut dire ce qui est aigu, ce qui est tranchant, ce qui est aiguisé, et kal, c'est ce qui est léger. Alors, Hidekel, c'est la Grèce, car ils étaient à la fois fins, rusés, aiguisés, et kal, léger, habile. Mais en le faisant de façon, comme on verra demain, j'espère, de façon légère, indirecte, de Big Zero Zero à l'Israël, dans leur décret contre Israël, et de quelle façon se traduit cette qualité des Grecs? Eh bien, The Omer Lohem, il leur dit, ce n'est pas le même Midrash que celui que vous avez vu tout à l'heure, hein, ce n'est pas le même Midrash, c'est un autre Midrash que celui que vous avez distribué hier. The Omer Lohem, voilà, exactement, Kisvu al Keren Ashor, chez En, le Israël, Chélek, Beloke Israël, inscrit. En quoi est-ce qu'ils étaient rusés et légers dans leur décret? Parce qu'ils disaient Israël, inscrivez sur la corne d'un bœuf, il n'y aura pas de part aux dieux d'Israël. Et le Maharal ajoute cette remarque importante, par laquelle nous finirons, qui malchus shelichis omeres le Israël, car effectivement, le troisième empire disait Israël, qui soit le kerenachot dafke, inscrivez sur la corne d'un bœuf, précisément, et pas ailleurs, pas sur du papier ou sur autre chose, sur la corne d'un bœuf. Donc, si vous voulez, pour résumer en quelques mots, si vous m'accordez encore 5 minutes, il est l'admis.
Qui a droit, j'en prends 5 après.
Voilà. Nous avons donc vu aujourd'hui que le troisième empire se rapporte au. Le troisième empire est caractérisé par le léopard. Le léopard possède la qualité d'intellect, c'est Sirkli, et que Serel correspond effectivement à Yavan. Comme au léopard. D'ailleurs, c'est très amusant parce que quand on regarde, j'ai été amusé à regarder en zoologie, qu'est-ce que c'est que le léopard. Et le léopard, effectivement, il appartient aux carnivores, à la classe du genre ophélidé, genre félis, qui comprend la panthère, le lion, le tigre, le genre panthéra, qui comprend le lion, le tigre, le léopard et le jaguar. Or, le léopard a les mêmes dents que le lion, il a la même force que le lion, mais il est plus vif. Il est plus vif que le lion, et il est capable d'attendre très longtemps sa proie. De plus, une chose qui m'a frappé, c'est que les savants modernes nous disent que l'aire, A-I-R-E, dans laquelle se trouve le léopard, c'est l'aire la plus vaste de tous les carnivores. Le léopard est l'animal qui se répand, qui est en Afrique, en Asie, et on a découvert en Amérique, c'est le jaguar. C'est pour les savants une autre forme tout simplement de léopard. Bon, cette petite parenthèse logique étant fermée, donc le léopard, c'est bien l'animal à qui correspond l'intellect, puisqu'on dit soit fort comme un léopard, mais nous avons vu que cette qualité de Hazout, c'est également le propre d'Israël, alors que Israël a la Torah, les nations ont cette qualité d'Hazout, mais ils ont la sagesse, ils n'ont pas la Torah. Il y a donc un rapport entre Az, Torah, Israël. Il y a un rapport entre Az et sagesse et Chokma. D'autre part, le fait que les Grecs ont la sagesse, on a permis que dans cette langue soit traduite la Torah, bien qu'ils n'aient pas parlé la Torah et qu'ils ne puissent pas la comprendre. Et en fin de compte, l'opposition entre Israël et la Grèce ne porte que sur ce qui leur est commun mais différent, c'est-à-dire l'intelligibilité de la Torah. Pour le résumer en un mot, et donc ce que les Grecs demandent, c'est une chose qui paraît absolument stupide, c'est-à-dire au lieu de dire ils ont pris des décrets, on le traduit par cette phrase qui ne signifie rien apparemment, inscrivez sur la crâne d'un bœuf, on n'est pas part au Dieu d'Israël. Et c'est le texte que nous essaierons de voir demain après une discussion sur ce problème qui nous montrera comment le Maharal, en prenant le verset d'Isaïe, je vous demande de bien regarder ces deux vers d'Isaïe, je distribuais, et ceux qui ne l'ont pas, il y en a d'autres exemplaires aujourd'hui, ces deux versets d'Isaïe 49-14, où j'ai donné une traduction mot à mot, nous verrons comment le Talmud explique ce verset et comment le Maharal s'en sert pour répondre à ce problème.
Si vous permettez, juste quelques phrases présentes pour nous ce premier enseignement en commun. D'ailleurs, nous sommes trois ici, pas seulement deux. Et pour aujourd'hui, je voudrais dire d'abord une petite chose. Je pense que j'ai parlé hier de la Yiddishkeit. Et vous en avez eu aussi une dimension aujourd'hui, puisque la prononciation de Michel était exactement celle que j'ai entendue de notre maître commun, Jacob Gordon, Zichrono Livracha. Petite anecdote, Michel a été son disciple un an avant que je l'ai connu. Et c'est quelques années après qu'on s'est retrouvés du même Heber. Et les premiers temps, moi j'ai débarqué d'Algérie, et j'arrivais pas à comprendre la prononciation du maître. Lui me comprenait, ben il comprenait tout. Et on était obligé les premiers temps de se passer des petits papiers pour savoir comment c'était écrit les mots qu'on se prononçait. En particulier par la suite, à la première année d'Orsay, un des élèves qui est devenu très important dans le réseau des Yeshivot, je ne dirais pas qui c'est pas la peine, mais c'est un homme important. Un jour, nous faisions un cours sur Para Adouma, la vache rousse. Et puis, j'étais amené à écrire « vache rousse » en français au tableau. Il s'élève en disant « Ah, je comprends !» Pendant plusieurs mois, il avait cru que c'était comme « cache rousse ».« Vache rousse, cache rousse ». Bien, et j'en arrive aux deux points que je voulais mettre en évidence. Indépendamment des... Vous allez me dire que la cache rousse, c'est un problème important contemporain. La vache rousse aussi. Ce que Michel a mis en évidence, que le conflit inévitable est entre les intellectuels et Israël, et que ce soit les intellectuels des quatre côtés, de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, etc. Je crois que l'année dernière à Paris, il y a eu un événement. C'est le livre de Bernard-Henri Lévy, un peu à la manière des Maccabées, il sort de la tribu de Lévy, lui aussi. Et vous avez dû remarquer à quel point, j'ai suivi ça dans les périodiques, de droite et de gauche, les intellectuels comme tels se sont jetés sur lui. Ils ont pressenti ce qui se passait là.
Vous voulez parler du Testament de Dieu ?
Oui, enfin, je ne voulais pas citer le titre, mais Lévi, on peut citer.
Excusez-moi.
Et non, je pense que si ça va dans le bon sens, ça ira très loin. Oui. Ça, c'est la première chose que je voudrais mettre en évidence. La deuxième, Michel a commencé par Amzou, Yatsartili, Deirati et Sabrou. Je voudrais vous citer un chidouche du Rav Kook sur ce verset très rapidement. Je sais pas si il y a... Il compare les deux mots, puisque nous avons un statut jusqu'au temps du dévoilé du Mashiach, nous avons un statut double. Nous sommes partout à la fois étrangers, séjournant, comme Abraham avait dit de lui-même, Ger Vetoshav, et avec deux mots différents. C'est d'abord le mot de Ezrach. Ezrach, comme vous savez, en hébreu, c'est citoyen, Ezrachi. Ezrach, qui est chez lui, Ezrach. Comment dit-on ça en français ? Indigène.
Autochtone.
Très bien. Et puis, il nous arrive très souvent en Israël des invités. Invité se dit « Orer ». Oreach, c'est le même mot, mais la différence, c'est que là, il y a Zaïd, et là, il y a Rav. Vous devinez la suite, ok? Alors, le Rav Kook dit souvent, Ezrach, Oreach, c'est deux apparences différentes du même statut, et effectivement, le verset dit, Amzou, Yatsartili, ce peuple que je me suis formé, moi, c'est Dieu qui parle, Tehilati et Saferou, seul ce peuple est capable d'être à la fois Zou, c'est-à-dire Ezrach et Oreach. On dit, on commence un peu par être Oréa, invité. Ici, je suis Oréa. L'Ezrach, c'est... Et puis, la différence entre le Vav et le Zaïn, c'est que le Vav redresse un peu la tête, Zaïn. Connaissez en arabe le mot de Zayn, Hadek Zayn, ça veut dire la beauté. Une certaine forme de la beauté, mais qui, étymologiquement, Klé Zaïn, en hébreu, ça veut dire l'uniforme du mirlitaire, enfin, du soldat. Et il y a là une indication extrêmement importante, comme la question a été posée, pourquoi pas dire Amze Yatsartili. Le Maharal se sert aussi de Zé pour montrer que c'est les 12 tribus aussi, Zayin et He, ça fait 7 et 5, 12, et que Zou, ça fait les 13, les plus forts. Restez, Echad, ok, 13 et Echad. Et il y a là une indication importante, il y a un cas particulier de l'identité Israël qui appartient à Kadosh Baruch Hu, Shayach Lamakom, cette unité du petit Yud dans le Hé, vous vous rappelez, comme le dit le Maharal, c'est un cas particulier qui a les deux aspects, et nous sommes attaqués dans les deux aspects. Quand nous sommes Ezrach, on veut nous voir Oréach, quand nous sommes Oréach, on ne veut pas nous voir Ezrach, en fait vous avez compris les deux aspects du combat. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a bouclé une boucle importante, et j'en reparlerai demain. Amzou Yatsartili.